Virginie, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Théo.
Alors on va te poser plusieurs questions, notamment sur ton parcours, sur ce qui est de la prévention à Solidarité Femmes Belfort, et puis un petit peu comment tu vois l'évolution de la prévention. On sait que ça fait quand même quelques années que tu es dessus, que tu as pu voir beaucoup de choses, développer beaucoup de choses, donc on va revenir un peu sur tout ça ensemble.
Ça marche.
Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton métier aujourd'hui ?
D'accord. Eh ben, moi, je m'appelle Virginie. Je travaille à Solidarité Femmes depuis 2007. Alors, en sachant que j'étais stagiaire avant ici, c'est comme ça que j'ai découvert l'association. Là, actuellement, à Solidarité Femmes, donc, j'occupe le poste de chargée de gestion administrative et budgétaire. En sachant qu'avant, j'ai beaucoup travaillé sur l'animation, coordination du pôle prévention.
Ok. C'est tout bon.
Ça t'ira.
ouais, très bien, très bien, très bien. Est-ce que du coup, tu peux nous présenter les études que tu as faites ou les différentes formations qui t'ont amené du coup à avoir le poste que tu as aujourd'hui, puis qui t'ont aussi amené à rentrer à Solidarité Femmes il y a quelques années maintenant?
Ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivée sur Belfort pour préparer le DUT carrière sociale. Et sur ma deuxième année de DUT, il fallait que j'aie une structure de stage pour faire ce qu'on appelait à l'époque des projets tutorés et aussi un stage en cours de formation. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux à Solidarité Femmes. Et à l'issue de ce stage, comme j'avais bien envie de travailler encore avec Solidarité Femmes, je leur ai proposé de pouvoir me prendre en stage sur la préparation de la licence professionnelle intervention sociale, donc aussi à l'UT de Belfort. Et après, donc en cours d'emploi, donc j'ai aussi pu préparer le DESGEPS, qui est le diplôme d'état supérieur de la jeunesse, des sports et de l'éducation populaire, donc mention de direction de projet et de structure.
Ok, très bien. Et du coup, par rapport à ça, donc tu es arrivé il y a, comme dit, quelques années à Solidarité Femmes. Est-ce que tu peux quand même présenter la structure? Et notamment, alors c'est une question qu'on me pose souvent pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la structure. Il y a une fédération, Solidarité Femmes, et quel est le lien entre la fédération et l'association Solidarité Femmes de Belfort?
D'accord. C'est un lien qui est un peu historique, j'ai envie de te dire, parce que donc à l'époque de la création de Solidarité Femmes, donc en 1978, les différentes associations Solidarité Femmes sur le territoire national étaient en train de se créer, parce qu'à l'époque, il y a eu une prise de conscience et il y a eu aussi une dénonciation de la part des militantes féministes sur les victimes de violences conjugales. Par rapport à ce qu'elle subissait et qu'il fallait effectivement agir et mettre cette problématique j'ai envie de dire sur l'espace public pour effectivement prendre en compte des violences qui étaient gardées dans l'espace familial et qui étaient pas dites par les femmes non plus ou pire qu'on trouvait comme normal parce que le mari avait autorité sur sa femme quoi. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là donc les différentes associations se sont mis en route un peu partout sur le territoire national et c'est vrai qu'à Belfort ça aussi était une des premières associations à se créer. Et donc après, effectivement, il y a eu la création de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui regroupe en fait l'ensemble des associations. Le lien qu'on a avec la Fédé, en fait, c'est aussi surtout. Alors, on a chaque structure a son indépendance, mais on adhère tous donc à la charte de la Fédération nationale d'une part. Et ce que permet aussi la fédération, c'est effectivement de pouvoir discuter donc avec les partenaires de l'État, donc au niveau des ministères, sur effectivement la question de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants.
Ok, très bien. Et du coup, par rapport à Solidarité Femmes Belfort, aujourd'hui, comment l'association se développe? Quels sont les différents pôles? Comment fonctionne l'association, même au niveau des salariés? Comment tu pourrais expliquer tout ça?
Là aussi, ça a été, tout s'est construit en marchant en fait, parce que au départ, quand les militantes ont créé Solidarité Femmes sur Belfort, il n'y avait pas de financement dédié, c'était avant tout des permanences bénévoles. Et petit à petit, effectivement, elles ont pu trouver les moyens, avec les partenaires de l'État et des collectivités, pour pouvoir embaucher des professionnels. Alors au départ, c'était assistante sociale et petit à petit, donc de pouvoir créer une équipe pluridisciplinaire en fait qui puisse travailler sur la problématique des violences conjugales. Auprès des victimes, dans l'accueil, la prise en charge et vraiment la gestion des situations d'urgence pour que les femmes puissent être en sécurité et trouver de l'aide. Après, effectivement, de manière beaucoup plus large, travailler sur à la fois donc la formation à destination des professionnels pour qu'ils puissent y avoir une prise en compte spécialisée de ce qui se passe pour les femmes victimes de violences conjugales. Et dans le même temps, travailler sur la prévention, donc pour pouvoir travailler un peu à la racine de ces problématiques-là et tenter de pouvoir faire changer les regards, les idées reçues aussi sur à la fois les filles et les garçons, mais aussi dans le couple sur l'égalité entre les hommes et les femmes et rôle et tâches de chacun.
Ok, très bien. Tu as parlé un petit peu de prévention, c'est quand même ce pourquoi on va se retrouver. Aujourd'hui, dans cette interview-là, pour commencer, est-ce que tu peux me donner ta définition à toi de la prévention?
Pas facile. souvent, en fait, je vais donner un exemple qui est complètement à côté, mais c'est pas grave. Souvent, quand on parle avec les jeunes des métiers, on a souvent les métiers au féminin, les métiers au masculin. Et sur le métier de sage-femme, souvent, les gamins te disent, oui, mais on ne dit pas sage-femme pour un homme, on dit maïeuticien, parce que c'est un petit peu ce qu'ils ont entendu. La maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les esprits. Et je trouve que la prévention, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, pour moi, la prévention, alors quand on est sur la prévention de la violence et de l'égalité, et la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons, on est vraiment sur comment est-ce qu'on va aider les jeunes à développer leur esprit critique pour effectivement qu'ils puissent se forger leur propre point de vue et leur propre manière d'être, de faire, de réagir par rapport à des clichés, des idées reçues, à des questionnements qu'il peut y avoir en lien avec le respect de soi et des autres, quoi.
Ok, et du coup, Solidarité Femmes Belfort, quand et comment est né le pôle prévention?
Le pôle prévention, il est né en 2007 en sachant que c'est le fruit d'un travail collectif avec les partenaires, notamment sur le quartier des résidences à Belfort. Et ce mouvement-là, il est né un peu dans l'impulsion et dans le sillage du mouvement Ni pute ni soumise qui s'était développé en 2004-2005. Je crois, oui, ça doit être par là, et qui visait effectivement à pouvoir réfléchir sur la place des filles et des garçons, sur ce quartier en particulier, parce que les acteurs de terrain faisaient part de problématiques qu'ils rencontraient, notamment sur le fait que les filles étaient peu visibles dans l'espace public et qu'il était important de pouvoir développer la prévention. Alors, ces acteurs de terrain se sont rapidement mis d'accord sur des points essentiels. Alors, notamment sur l'idée que les actions de prévention sont indispensables pour pouvoir aborder ces problématiques avec les jeunes et les discuter. Et qu'au-delà du fait de travailler avec les jeunes, c'est aussi important de travailler avec les parents sur effectivement qu'est-ce qu'on transmet aux enfants dans le rapport entre les hommes et les femmes et les relations hommes-femmes.
Ok, très bien. Et du coup, toi, quel a été ton rôle dans le développement de ce pôle prévention pendant du coup maintenant une quinzaine d'années?
Eh ben, ce que je te disais tout à l'heure par rapport à mon parcours, c'est qu'en fait, j'ai eu la possibilité de faire mon stage à Solidarité Femmes. Et ce stage, c'était dans le cadre du pôle prévention. À l'époque, ce travail de terrain d'acteur, donc ça s'appelait le collectif de veille contre les violences sexistes et pour l'égalité entre les filles et les garçons. Ce collectif-là, l'idée, c'était de pouvoir aussi y mettre un dispositif de recherche-action pour voir en fait comment est-ce qu'il pourrait fonctionner davantage et être générateur de peut-être plus d'actions. Et du coup, les professeurs, parce qu'on faisait le constat qu'avec ce collectif-là, il a fonctionné de manière plutôt active pendant 2 ans et petit à petit ça s'est soufflé parce qu'effectivement les partenaires avaient cette mission-là en plus de leur temps de travail. se réunissaient le soir et avaient peu de temps disponible pour pouvoir mettre en place concrètement des actions à destination des jeunes. Ce qui fait que ce collectif pouvait mettre en place une à deux actions par an et les membres ont rapidement fait le constat que c'était important de pouvoir développer de manière beaucoup plus large la prévention. Donc d'où l'idée ensuite à Solidarité Femmes de pouvoir essayer de trouver les moyens pour développer la prévention.
Ok, très bien.
Il y avait ça, et dans le même temps, quand même des demandes grandissantes. Donc, à l'époque, il y avait l'association Parenthèse à la violence qui, elle, accompagnait les auteurs. Alors, ce qui était aussi, j'ai envie de dire, quelque chose d'assez particulier sur le territoire national parce que elle a été parmi les premières, et je crois qu'il y avait trois structures à l'époque qui faisaient ce travail-là. Et à la fois Parenthèse et à la fois Solidarité Femmes, on était de plus en plus sollicités aussi par les établissements scolaires ou par certaines municipalités pour pouvoir mettre en place des actions de prévention.
Ok, très bien. Aujourd'hui, quel public est touché par les actions de prévention et tu dirais qu'il y a combien d'heures ou de journées ou de personnes, je ne sais pas comment vous comptez, mais pour l'ensemble des actions de prévention menées par Solidarité Femmes?
Tu le couperas au montage, mais on ne touche pas les publics, on ne fait pas ça.
Non, je laisserai, je laisserai.
Bah, du coup, ouais, alors par rapport au public, alors c'est vrai qu'on a, dès le départ et dès la création du pôle prévention, on a beaucoup été sur des demandes donc des établissements scolaires. Alors, il y avait, quand je parlais des municipalités tout à l'heure, un travail de fond qui a été mis en place dès 1995 avec Parenthèse à la violence sur la prévention des abus sexuels. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on fait encore aujourd'hui. Voilà, mais c'est sur cette problématique précise. Et quand on est allé à la rencontre, donc à la création du pôle prévention, donc à la rencontre des établissements scolaires, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait effectivement un intérêt et des besoins, donc à pouvoir mettre en place des actions de prévention. Alors, beaucoup sur effectivement l'égalité filles-garçons et la lutte contre les stéréotypes, mais aussi donc de pouvoir travailler le rapport entre les filles et les garçons. Et j'ai envie de dire, de toutes les idées reçues qui existent, effectivement, comment se positionnent les filles, comment se positionnent les garçons.
Ok, et au niveau de ces thématiques, du coup, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises qui reviennent régulièrement ou est-ce que tu es aussi dans le développement année après année en fonction des demandes de nouveaux outils?
L'idée, c'est vraiment que, effectivement, on n'arrive pas avec un outil clé en main dans les établissements scolaires, et c'est pour ça que généralement, quand on se rencontre, l'objectif, c'est d'échanger autour des problématiques et de pourquoi est-ce qu'un établissement scolaire veut mettre en place une action. Et à partir de là, effectivement, on va proposer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des outils. Alors, je parlerai même pas tellement d'outils, je parlerai peut-être plus de techniques d'animation qu'on a expérimentées, développées et qu'on propose aujourd'hui parce qu'effectivement, on se rend compte que sur des temps assez restreints qu'on a, parce que quand on a 2 heures en face à face avec un groupe, on a intérêt à être efficace. Et c'est vrai que finalement, comme on est dans l'esprit de pouvoir libérer la parole des jeunes sur cette thématique-là, ou en tout cas la favoriser, vraiment sur des techniques d'animation qui permettent de faire ce travail-là et que les jeunes puissent exprimer leur point de vue dans un cadre sécurisant, sécurisé et qu'à partir de là, on puisse entamer la discussion et mettre en lumière la question des idées reçues, des stéréotypes, à la fois sur l'égalité filles-garçons et à la fois sur le recours à la violence.
Au niveau du territoire géographique, du coup, les interventions, elles se font sur Belfort ou il y en a aussi qui peuvent se faire dans d'autres départements?
Je dirais plus, on est à l'échelle du bassin de vie, donc ça va être effectivement à la fois sur le territoire de Belfort, mais aussi sur le pays de Montbéliard et aussi sur la Haute-Saône, donc sur le pays d'Héricourt.
Ok. Pour revenir un petit peu sur les différentes thématiques dont tu as parlé, il y en a une sur la prévention des abus sexuels. Comment est-ce que ça se passe? À partir de quel âge vous travaillez avec ces publics-là? Et pour revenir un petit peu sur la question des outils, comment on aborde ces thématiques-là avec les jeunes?
D'accord. En fait, L'action de prévention des abus sexuels, pour moi, c'est un petit peu le tronc commun à l'ensemble de nos actions. Parce que dans le déroulement de la prévention des abus sexuels, c'est quelque chose qu'on réalise depuis la maternelle. Alors nous, on s'adresse aux grandes sections, mais on a un outil de prévention qui, effectivement, peut démarrer dès la petite section. Sauf qu'après, c'est plus des questions techniques et organisationnelles qui font qu'effectivement, c'est compliqué de pouvoir le proposer avant. Mais ça veut dire que, effectivement, on travaille avec les enfants en grande section et on travaillera avec eux ensuite en CM1, CM2. Voilà. Alors, on l'aborde de manière différente parce qu'effectivement, les outils sont adaptés aux classes d'âge. Mais l'idée, c'est de pouvoir travailler sur la protection de son corps. Et pour travailler sur la protection de son corps, on va avoir un cheminement au cours de plusieurs séances. Alors, il y en a quatre en maternelle, il y en a trois en CM1, CM2, autour de l'idée qu'il est important d'écouter son corps pour pouvoir se protéger. Écouter son corps, c'est être attentif à ce qu'on ressent, donc les émotions agréables, désagréables. Comment est-ce qu'on va pouvoir poser ses limites et comment est-ce qu'on va pouvoir dire non et s'interroger autour des difficultés qu'il peut y avoir à pouvoir dire non aux autres. Et après, effectivement, sur comment est-ce qu'on va pouvoir se protéger, être dans une optique de prévention, pas se retrouver dans une situation de danger, par exemple. Et aussi, donc, un point important, c'est qu'il est important aussi de pouvoir chercher de l'aide et savoir trouver de l'aide de manière efficace.
Ok. Ouais,
Voilà.
très bien. Très bien, très bien. Par rapport à tout ce qui est égalité filles-garçons ou même rapport entre les filles et les garçons, est-ce qu'il y a des réactions ou réflexions récurrentes que tu peux avoir en atelier? On va parler de ce qui est positif, mais aussi un petit peu de ce qui peut être négatif et du coup les moments où tu te dis, bon, bah, il y a un intérêt d'être là, quoi.
D'accord. Si je commence par, allez, je vais commencer par le négatif, comme ça après on va vers le positif et parce que ça va être sympa comme ça. Moi sur les aspects qui m'interrogent en tout cas, c'est qu'effectivement, enfin, dans l'ensemble des interventions qu'on peut mener et j'ai envie de dire à la fois en collège et en lycée, alors. Dans les aspects positifs, je parlerai de l'évolution qu'il y a, mais c'est vraiment un petit peu cette persistance de l'image qu'on peut avoir des hommes et des femmes, et notamment du côté des femmes par rapport à la sexualité. Je trouve que c'est important parce que c'est aussi un fondement, alors parce que quand on regarde un petit peu le traitement et les clichés qu'il peut y avoir sur les filles et les garçons, rapidement avec les jeunes, on va avoir des réflexions autour de finalement les questions liées à l'image des filles, l'image des garçons, les questions de réputation. Et quand on creuse un peu sur les questions de réputation, on se rend compte que finalement, les filles, elles sont peut-être assez limitées, j'ai envie de dire, dans leurs possibilités et leur liberté individuelle, parce qu'elles sont rapidement jugées. Et généralement, le jugement, il va se faire sur la sexualité vraie ou supposée. Ça veut dire que, eh ben, une fille, si elle s'habille de telle ou telle manière, ou si elle se comporte de telle ou telle manière, rapidement, elle va se faire traiter de pute. Tandis que ça, on le retrouve beaucoup moins du côté des garçons, en tout cas, c'est moins marqué. Et au-delà de ça, enfin, je trouve que c'est aussi quand on interroge le rapport au corps, le corps féminin est encore vraiment tabou. Et ça, on se rend compte, enfin, quand je parlais des actions de prévention des abus sexuels à la maternelle, ça, c'est un exemple que je prends régulièrement parce que. Je trouve que c'est de plus en plus présent, ou en tout cas peut-être que ça me saute beaucoup plus aux yeux maintenant, mais parler du corps avec les enfants, alors effectivement, on se rend compte que déjà l'intimité, la sexualité, c'est quelque chose qui est encore très tabou, au-delà de la gêne que les jeunes peuvent ressentir, quoi. Enfin, c'est vrai que, on se rend compte qu'effectivement, dans certaines familles, on parle du rapport au corps. On ne parle pas dans toutes les familles de ce rapport au corps. Et c'est très facile de nommer le sexe des garçons, le sexe des filles. Parce que, enfin, si je dois donner des chiffres, j'ai généralement un à deux mots pour nommer le sexe des garçons. Quand on parle des parties intimes des garçons, je dois en avoir une quarantaine pour nommer le sexe des filles. Voilà. Et je trouve que c'est quand même. Alors, surtout quand on regarde un petit peu dans le détail les mots qui sont utilisés. Enfin, c'est vrai que Alors, on passe par les fruits, les légumes, etc. Mais enfin, quand on a des mots comme le trésor, le bijou, etc., on se rend bien compte que la question de la virginité des filles, elle est encore hyper présente. Et ça, enfin, peu importe les orientations religieuses, la culture d'origine, etc., les filles se font rapidement juger par rapport à ça.
Ok, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que tu mets en place notamment pour réfléchir autour de cette question-là? Et ça va faire le pont avec la question suivante, mais est-ce que tu as eu l'occasion au fur et à mesure des années où tu as pu agir en prévention de voir le retour de ton travail? Est-ce qu'il y a des jeunes que tu as pu revoir plus tard et notamment sur ces questions-là et où tu t'es dit, bon, bah, ce qu'on a vu là, ça a permis de faire naître telle ou telle réflexion.
Bah, disons que enfin, l'idée c'est de pouvoir s'interroger, réfléchir. Alors c'est sûr que quand on est en grande section maternelle, le pouvoir de réflexion et de projection enfin, est limité parce qu'effectivement il faut être aussi donc en accord. Avec ce que les jeunes peuvent entendre et peuvent développer à leur âge. Mais c'est vrai qu'après, donc avec les plus grands aussi, on interroge effectivement la question de la relation aux autres, la question du respect des filles et des garçons, la question de la liberté individuelle. En termes de retour dans les aspects positifs, hein, c'est vrai qu'il y a des enfants qu'on voit en maternelle, qu'on revoit en élémentaire et qu'on a parfois l'occasion aussi de revoir en collège. Et c'est vrai qu'ils gardent en mémoire, j'ai envie de dire, peut-être les points les plus importants et les plus essentiels, et c'est généralement ceux avec lesquels on conclut nos interventions, c'est effectivement de pouvoir être à l'écoute de ce qu'on ressent et de pouvoir effectivement dénoncer des situations qui nous paraissent désagréables parce qu'on a été traité injustement. Donc c'est effectivement quelles compétences les jeunes vont pouvoir développer et comment est-ce qu'on va les aider à développer ces compétences-là pour pouvoir effectivement se protéger et chercher de l'aide en cas de besoin.
Au fur et à mesure des années où tu as pu travailler sur la prévention, est-ce que tu as vu de nouvelles thématiques naître? Et selon toi, bah, quels sont du coup les défis vers lesquels aujourd'hui la prévention doit se tourner pour continuer à accompagner au mieux les jeunes sur ces questions-là?
Oui, il y a une thématique qui est de plus en plus prégnante, mais c'est aussi bien en lien avec l'évolution des nouvelles technologies. C'est autour effectivement de l'impact que peut avoir la pornographie du côté des jeunes. Parce que autant il y a 15 ans en arrière, les questions Internet, etc., on était vraiment pas dans les balbutiements parce que ça existait déjà, mais c'était peut-être moins démocratisé, il y avait moins Internet sur les téléphones portables. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et quand on discute et on réfléchit avec les jeunes, en fait c'est des thématiques qui émergent parce qu'on se rend compte que oui les jeunes et depuis très jeunes parce que ça commence en CM1, CM2 et je pense bien avant, donc sont exposés à Internet, aux réseaux sociaux. Et souvent, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont pas sur un compte qu'ils ont créé eux, mais le compte des parents ou des grands frères, des grandes sœurs, et ils ont rapidement accès à des contenus bah, qui finalement sont pas de leur âge ou effectivement vont leur donner un aperçu de ce que de problématiques qui relèvent du monde des adultes et qui vont peut-être pas forcément comprendre et intégrer comme il faudrait, notamment enfin quand on regarde un petit peu les codes de la pornographie. Concernant l'image des hommes et des femmes, effectivement, on s'interroge et je pense qu'on peut s'inquiéter aussi de ce que ça transmet aux jeunes sur comment doivent se comporter les filles et comment doivent se comporter les garçons. Et par rapport au tabou dont on parlait tout à l'heure autour de la sexualité et, je trouve, enfin, du sexe féminin, il y a un vrai paradoxe. D'un côté, effectivement, j'ai l'impression qu'on est en train de se restreindre au niveau des libertés de parole autour effectivement de son corps et dans le même temps on a un accès hyper grand ouvert mais beaucoup caché aux adultes sur la sexualité mais la découverte de la sexualité à travers la pornographie qui est pas de la sexualité quoi.
Du coup, ça doit être assez compliqué à aborder avec les jeunes parce que je suppose que donc il y a un vrai travail à faire sur cette question de la pornographie, mais si en même temps on est face à des jeunes qui sont assez bloqués dès qu'on aborde la sexualité, ça fait, enfin la porte semble doublement fermée, quoi.
Oui, alors j'ai envie de dire que quand on aborde les questions de sexualité avec les jeunes, j'avais vraiment être sur le, allez, sur le niveau CM1, CM2, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, parce qu'en CM1, CM2, les enfants ont généralement eu au moins une séance d'éducation à la sexualité à l'école. Au programme, généralement, ils abordent tout ce qui est de la reproduction humaine. Ou s'ils ne l'ont pas abordé, ils vont bientôt l'aborder. Ce qui fait qu'en fait, soit ils ont déjà entendu parler de ça, soit ils savent qu'ils vont en entendre parler. Quand il y a de la gêne ou quand il y a, j'ai envie de dire, un petit peu des oppositions à aborder ça, quand je dis des oppositions, par exemple, c'est ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est des gamins qui vont se boucher les oreilles pendant qu'on aborde ces problématiques-là. C'est vraiment une façade. Je pense que c'est un petit peu une manière de se conformer et qu'est-ce que je vais montrer aux autres de mon intérêt par rapport à ça, en se disant ben, finalement je ne vais pas être partie prenante. Alors qu'en réalité, une fois qu'on est entré dans le sujet et qu'on en discute avec eux, il y a beaucoup d'intérêt. Et même ceux qui se bouchent les oreilles écoutent généralement plutôt attentivement ce qui est dit. Je pense que la manière de l'aborder, il faut rester simple. C'est souvent quand on peut avoir des rencontres avec les parents ou les parents sont en interrogation autour de ça, ce qu'on leur dit, c'est qu'effectivement, ce qu'on aborde avec les enfants, il faut être à l'aise pour l'aborder, sinon ce n'est pas la peine parce que ça ne fonctionnera pas. Mais c'est simplement de pouvoir partir de leurs mots, de ce qu'ils ont vu, entendu, et à partir de là, s'appuyer bah, sur les connaissances scientifiques, mais aussi sur bah, la loi, les valeurs de respect et d'égalité, pour pouvoir effectivement aborder la question de son propre rapport à son corps et du rapport donc avec les autres. Voilà.
Ok, merci. Par rapport à ça, selon toi, et pareil au niveau de l'évolution de la prévention, comment tu vois évoluer la prévention aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque peut-être à la prévention en règle générale? Ça peut peut-être être une question de financement, d'approche ou autre. Comment tu imagines la prévention sur les années à venir et qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour qu'elle soit de plus en plus efficace?
Ah, des moyens.
Ouais.
Des moyens, enfin, je n'ai pas parlé uniquement de moyens financiers, même si j'ai envie de dire c'est la base parce que c'est ce qui nous permet d'avoir ensuite des moyens humains. Mais c'est effectivement vraiment de pouvoir, alors à la fois pouvoir répondre aux demandes des partenaires pas les laisser de côté, parce qu'à un moment donné, s'il y a une impulsion sur un projet, c'est quand même bien de pouvoir la saisir, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des besoins. Mais c'est oui, enfin c'est vite limité, bah, parce qu'effectivement, sur le pôle prévention, nous, aujourd'hui, on a un demi-poste. Ça nous demande quand même enfin, de réaliser beaucoup d'interventions en face à face avec les jeunes, et ce qui laisse peut-être moins la porte ouverte à pouvoir développer des projets ou, j'ai envie de dire, être un peu précurseur sur la création d'outils face à des problématiques particulières. Je parlais de la pornographie tout à l'heure, alors c'est sûr que même si on n'a pas créé un outil en particulier, clé en main, à l'aide des techniques d'animation, à l'aide de recherches qu'on peut faire, on peut créer des séances sur ces thématiques-là, mais c'est de pouvoir effectivement avoir le temps de discuter, réfléchir, co-construire les projets, tout l'aspect de coordination qui effectivement est généralement moins mis en valeur, ou c'est plus compliqué effectivement de pouvoir trouver des moyens pour pouvoir faire ça. Mais c'est ce qui me paraît essentiel. En même temps, il y a toujours la question de, bah, quand on est dans une logique de prévention primaire, on va l'appeler comme ça, c'est effectivement, est-ce que on pose souvent la question d'évaluation, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça impulse des changements, et comment est-ce qu'on va évaluer tout ça? Alors c'est sûr que c'est pas évident d'évaluer tout ça, mais moi je trouve que c'est quand même essentiel, parce qu'à un moment donné, ça veut dire que on garantit que les jeunes auront moins pu une fois au cours de leur scolarité ou en tout cas au cours de leur enfance, adolescence, avoir pu réfléchir et discuter collectivement de ces problématiques-là.
J'ai pas de stats sur la prévention par rapport à la prévention qui peut être dispensée chez Solidarité Femmes, mais c'est sûr qu'on voit que par exemple sur d'autres niveaux de prévention, on sait que le fait que les jeunes aient rencontré des personnes durant leur cursus scolaire venant leur parler de telle ou telle thématique amènent les jeunes à avoir un niveau de réflexion ou une ouverture sur ce sujet-là qui est renforcée. Donc dans tous les cas, même si peut-être que matériellement c'est pas évident d'avoir des chiffres sur le travail accompli, on sait qu'en règle générale, de toute façon, ça reste quoi. C'est ce que tu pouvais dire tout à l'heure sur le fait que des jeunes se souviennent ou quand tu les as eu en maternelle et que tu les vois
c'est
après.
C'est ça. Enfin, l'exemple le plus parce que c'est pas évident aussi. Enfin, c'est beaucoup du relevé d'observation de terrain en fait. Moi, je me souviens il y a quelques années en arrière, j'étais sur une action de prévention. Au collège de Seloncourt. Au collège de Seloncourt, les classes que j'avais en face de moi, je pense qu'il y a 90% des élèves, je les avais eues en CM1, CM2. Et on travaillait sur la mise en scène de conflits et effectivement, comment est-ce qu'on va essayer de se positionner pour gérer un conflit de manière positive. Et je sais que des élèves, à un moment donné, étaient dans le jeu de rôle, savaient plus trop quoi dire ou faire. Donc j'ai interrompu la scène, j'ai dit « Mais là, tu auras envie de lui dire quoi ?» Et il me répond « Eh ben que c'est mon corps et que je dois le protéger. » Et puis là, enfin, c'était plutôt parlant parce que effectivement ça fait partie des messages qu'on fait passer sur l'action Mon corps c'est mon corps avec les mêmes termes donc ils les réutilisaient donc il y a quand même des choses qui se transmettent et alors je sais qu'avec les partenaires tout au long enfin des 15 années avec lesquels enfin quand j'ai pu travailler avec eux certains disaient oui c'est important c'est semer des petites graines etc. Il y en a qui disent aussi finalement une action de prévention et je prends l'exemple de la prévention des abus sexuels si elle permet à au moins un enfant de révéler qu'il a été victime, c'est positif. Alors, tout le monde ne partage pas ce point de vue-là en disant bah, finalement, peut-être que ce n'est pas suffisant compte tenu des moyens. Mais quand on a en face de nous un jeune ou une jeune qui nous dit qu'il a été victime et qu'on se rend compte que c'est la première fois qu'il ou elle en parle, alors que ce soit au niveau d'abus sexuels, que ce soit au niveau de violences sexuelles, de la part des copains ou des copines, quand on a le jeune en face de nous, on est content de pouvoir lui apporter de l'aide, quoi.
Carrément. Par rapport à ça, je voulais te demander aussi, tu parlais d'outils tout à l'heure, c'est vrai que sur Mon corps, c'est mon corps, on a des outils qui nous viennent du Canada, là on va en parler, mais du coup on a un outil qui va nous venir du Canada pendant le colloque sur les violences amoureuses chez les jeunes, qui s'appelle du coup les couloirs de la violence amoureuse. Est-ce que tu penses que par rapport aux outils et à la création d'outils, on est un peu en retard en France, et si tu penses ça, est-ce que tu dirais que c'est par rapport au fait aussi que... Enfin, est-ce que le Canada pourrait être meilleur producteur d'outils parce que c'est quelque chose qui est intégré, qu'ils ont une avance par rapport à la thématique de l'égalité filles-garçons ou autre, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt parce qu'ils ont plus de moyens qui peuvent du coup se pencher sur ces questions-là? Je parlais hier à Stéphane qui du coup travaille chez Pulse Carsonal et qui me disait que les couloirs a créé ces 300 000 dollars canadiens, quoi. Donc c'est un peu moins en dollars et ça doit être un peu moins en euros aussi.
Ouais, c'est quand même une grosse somme.
Mais c'est quand même une somme énorme. Ouais. Je veux dire, on est presque sur un quart de million pour cet outil qui est incroyable, hein, cela dit. Mais je veux dire, c'est quand même une somme. Enfin, aujourd'hui, quand on parle de ces chiffres-là, c'est presque une somme qui peut faire vivre la masse salariale d'une asso sur un an, quoi. Donc,
J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'il doit y avoir, un petit peu de tout dans ce que tu disais. Ce qui me venait en tête quand tu posais la question, c'est aussi la question de la visibilité des outils. Et là, c'est peut-être plus en lien avec comment on communique, comment on se connaît aussi entre partenaires. Alors, il y a le niveau local et on voit bien comment parfois c'est compliqué. Donc après, quand on le remet à l'échelle nationale, je vais te donner un simple exemple. Enfin, nous, quand on a eu de nouvelles demandes pour traiter la question de du respect dans les relations amoureuses des jeunes, c'est vrai que du coup j'ai eu le réflexe d'aller voir un petit peu sur internet si des outils existaient et du coup j'ai eu la chance de tomber sur des petites capsules vidéo donc réalisées par la Maison des adolescents de la Manche. Pour avoir discuté avec des professionnels d'autres maisons des adolescents, je me suis rendu compte qu'ils connaissaient pas cet outil-là. Donc,
Bien
c'est
sûr.
effectivement comment est-ce qu'on rend aussi visibles nos outils et les différentes démarches, parce que, y a des initiatives qui sont prises partout sur les territoires nationaux. Alors, c'est vrai qu'il y a la commission prévention de notre fédération nationale, mais on se rend bien compte qu'effectivement, c'est des problématiques qui sont traitées par les professeurs, qui sont traitées par d'autres structures aussi. Et donc, à un moment donné, comment est-ce qu'on va faire découvrir, comment est-ce qu'on va faire se rencontrer tout ça? Et ça, c'est, je pense, déjà un gros challenge. Sur la question des moyens, peut-être qu'effectivement la prévention primaire ou en tout cas telle qu'on la pratique, c'est pas une priorité parce que peut-être que la priorité est plutôt mise sur les dispositifs d'aide aux personnes qui sont confrontées à des problématiques, alors comme les femmes victimes de violences conjugales. Mais c'est vrai quand tu parles du budget pour la création des couloirs, alors. Peut-être qu'il y a les moyens de trouver des partenariats qui permettraient de réaliser cet outil-là. Enfin, ça, ce serait ou un outil de ce type-là. Mais avant, ça veut dire qu'il faut aussi avoir les moyens de pouvoir travailler à la conception et à la réalisation de cet outil-là.
D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux vidéos de la Manche, parce que ce que me disait du coup là, Stéphane hier, c'est que, il y a 50 000 dollars canadiens sur le projet, du coup sur les 300 000 dont on parlait, qui ont été mis en place pour la communication autour des couloirs. Donc c'est quand même un
Oui,
budget
c'est ça.
énorme.
Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que sur la communication, oui, enfin, c'est difficile d'avoir les budgets parce que nous, la priorité qui est donnée, c'est effectivement la priorité aux actions. Donc, c'est vrai que bah, les moyens, on va les mettre plutôt là parce que c'est là où on a déjà des demandes et qu'on a besoin de boucler, quoi.
Tout à fait. Cet entretien va arriver tranquillement à son terme. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais une lecture ou un média audio ou vidéo, ou enfin ce que tu veux, qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent, qui pourrait être une ressource pour des professionnels notamment sur ces questions-là, sur la question de la prévention? Sur la question de l'égalité filles-garçons, enfin, c'est une question assez ouverte. Donc voilà, s'il y a quelque chose dont tu veux parler, que toi tu peux utiliser régulièrement ou qui t'aide dans ta vie professionnelle à développer ces questions-là, n'hésite pas à le partager.
Le code pénal.
Alors Siam hier me parlait de la frise, enfin avant-hier, sur les dates qu'elles ont,
L'évolution, ouais,
voilà,
des
au
droits des femmes.
CIDFF sur l'évolution des droits des femmes, tout à fait.
Mais la raison, c'est vrai, parce que c'est vrai que quand on travaille sur l'égalité homme-femme, en fait, je me rends compte que au niveau de tout ce qui est de l'histoire, hein, de l'égalité entre les hommes et les femmes, est peu connu de la part des jeunes, et souvent ils vont avoir en tête la référence qu'ils apprennent en histoire, c'est le droit de vote des femmes, et ils ont pas ou peu d'éléments du contexte et de l'évolution sociétale aussi qui était en marche et notamment dans les années 60-70, de tout le mouvement féministe qui a pu se mettre en place et qui a porté effectivement les problématiques égalité homme-femme et essayer de garantir cette égalité homme-femme. Il y a peu de mémoire en tout cas de ça ou peu de connaissances autour de ça. Donc oui, les jeunes sont souvent surpris quand on peut amener quelques dates un peu clés, comme par exemple celle que les femmes peuvent disposer librement de leur salaire. Et c'est vrai que quand on interroge les jeunes, on se dit, en leur disant, et s'il y avait un retour en arrière et qu'on mettait des lois différentes pour les hommes et les femmes, ben, on voit tout de suite qu'il y a un lever de bouclier en face, autant du côté des filles que des garçons d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même plutôt encourageant et positif.
Ok, donc pas d'autres lectures complémentaires ou podcasts ou je ne sais
Je
pas.
disais le code pénal parce que c'est un peu le cadre, quoi, parce que souvent, quand on travaille avec les partenaires sur la mise en place de ce type d'action-là et travailler sur les clichés, les idées reçues, les stéréotypes, les personnes, enfin les partenaires sont souvent inquiets, voire un petit peu frileux à aller sur ces problématiques-là parce que la crainte, c'est d'aller trop loin ou peut-être de faire transpirer son point de vue. Dans ce qu'on pourrait travailler avec les jeunes. Et dans ce cadre-là, enfin, le cadre législatif, hein, il est contenant et rassurant parce qu'il dit l'essentiel, en fait.
Ok. Eh ben,
J'ai
merci
pas d'autres
beaucoup.
scènes de lecture, je peux pas te dire.
Non, mais écoute, c'est très très
Ça
bien.
me vient pas. Tu m'as scotché sur la dernière question. Je sais pas.
En tout cas, je te remercie pour avoir répondu à toutes ces questions-là. Du coup, il y aura l'interview de deux manières, une version complète où rien ne sera coupé, je te préviens. Donc, on aura ta blague sur.
Ok. Touche pas les publics.
Qu'on mettra en ligne du coup sur notre site internet, et puis une un peu plus condensée qui se retrouvera dans le journal Femmes qui sortira pour le colloque.
Ok, impeccable.
Voilà.